Vision du monde. Corinne Manjou, Geneviève Delerue.
Bonjour à tous. Dans cette première partie de Religion du Monde, place à l'actualité avec le conflit au nord-est du Sri Lanka entre les séparatistes tamouls et l'armée gouvernementale. Nous entendrons le témoignage de la communauté catholique sri-lankaise d'Île-de-France. Puis nous irons à l'écoute des jeunes des milieux populaires. La JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne fondée en 1927, a rassemblé hier au parc de la Courneuve en région parisienne des milliers de jeunes pour un festival sur le thème de l'accès à la culture. Enfin, dans le cadre des états généraux de la bioéthique en France, grand chantier national qui associe de nombreux partenaires de sensibilités diverses, nous entendrons le docteur Xavier Mirabel, président de l'Alliance pour les droits de la vie. La deuxième partie de Religion du Monde, après le flash, poursuivra cette réflexion bioéthique avec un débat sur les mères porteuses, débat mené par Corinne Manjou. Des dizaines de milliers de civils pris au piège des combats entre l'armée et la guérilla séparatiste des Tigres tamouls dans une poche d'une quinzaine de kilomètres carrés au nord-est de l'île. Une situation humanitaire catastrophique pour les réfugiés. La diaspora tamoule vit de loin douloureusement les ravages de cette guerre civile de plus de 25 ans entre le gouvernement singalais bouddhiste et les rebelles tamouls. À Paris, Notre-Dame réconciliatrice dans le quartier de Belleville est l'église de la communauté catholique sri-lankaise. Est une des paroissiennes. Cette ancienne infirmière a quitté le Sri Lanka il y a 25 ans. Elle traduit l'émotion des Tamouls d'Île-de-France.
C'est grave tout ce qui se passe au pays maintenant. C'est pour tout le monde, pour les Tamouls qui sont là-bas, qui ont sorti de la zone de combat depuis quelques jours. Là, ils sont traités pire que des esclaves. Quand on voit vraiment, on a envie de pleurer. On peut pas dormir tranquille, nous, on dort pas. Le matin, quand on se réveille, on va écouter la radio, on va écouter la télé, on appelle à gauche, à droite pour demander les nouvelles. Ça traumatise beaucoup les Tamouls.
Une guerre, c'est toujours terrible, mais là, on a l'impression que cette guerre-là, elle est particulièrement cruelle parce que ça se passe sur un réduit, sur une poche, d'une part, et que d'autre part, les armes employées sont terribles, notamment les armes chimiques, c'est ça?
Les armes chimiques, et puis les gens qui n'ont rien à manger, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas d'eau à boire. Ces gens sont 60 000 qui restent encore dans la zone de combat.
160 000.
160 000 qui restent. Et là, je ne sais pas comment qu'ils vont sortir. En plus, dans les forêts, il n'y a rien. Et les gens qui ne savent pas où est-ce qu'on sort, où est-ce qu'on va acheter, même pour boire de l'eau. À cet endroit, j'ai vécu 9 ans, je sais bien que là, maintenant, il n'y a rien.
Alors précisément, on a du bouddhisme en Occident une image souvent biaisée. Hein, le bouddhisme égale non-violence et paix. Bon, vous, votre regard, évidemment, il est diamétralement différent.
Mais écoutez, il y a 30 ans, quand on a eu un problème, moi, nous avons demandé des infirmières qui ont travaillé avec moi. J'étais infirmière et puis on les a demandé pourquoi qu'ils font ça. Le Bouddha nous a dit de sauver la vie des bêtes, de ne pas traiter les bêtes, de ne pas torturer les bêtes. Mais le Bouddha n'a pas dit de ne pas tuer les Tamouls.
Il n'y a pas de contact possible, il n'y a pas d'entente possible, de compréhension possible.
Les catholiques, ils n'ont pas de pouvoir. C'est les bouddhistes signalés seulement les pouvoirs.
Vous êtes inquiète pour les prêtres qui sont actuellement donc, dans la poche de guerre. Vous êtes inquiète pour eux quand les combats s'arrêteront. Déjà, ils peuvent perdre leur vie aujourd'hui, évidemment, mais après, quand les combats s'arrêteront, ils risquent de subir des représailles.
Ah, ça c'est sûr, parce qu'il y a déjà plusieurs prêtres qui ont décédé. Et puis là, eux, leur vie n'est pas assurée, là, jusqu'à la fin de la guerre. Quand ils vont sortir, je ne sais pas, mais comme ils ont resté pour aider au peuple, pour leur sécurité, je ne veux pas parler de ça. Pour leur sécurité.
Le père Arul Rasa est le prêtre de Notre-Dame réconciliatrice. Il est en France depuis 6 ans et doit retourner au Sri Lanka en août prochain au sein de sa communauté, les Oblats de Marie Immaculée. Notons que les chrétiens ne sont que 7% au Sri Lanka.
எங்களுடைய நாட்டு மக்களுடைய துன்பங்களை அதிகமாக நினைக்கிற பொழுது
ici aussi nous partageons la souffrance qui au Sri Lanka. Nous avons la confiance, la foi en Dieu. Nous espérons que le bon Dieu va nous aider pour la paix. Et puis, avec la communauté, nous ferons des collectes et puis nous envoyons au diocèse les Tamouls qui veulent partager avec les gens qui ont besoin.
அவர்களுடைய சபத்தையும் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் தொடர்ந்து எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம்.
Mon père, l'église catholique semble très active actuellement. Il y a même un prêtre qui vient de perdre ses deux jambes. On a le sentiment que l'église catholique veut vraiment jouer un rôle aussi bien de protection vis-à-vis des populations civiles que bien sûr ce qui est son rôle dans la paix.
எங்களுடைய நாட்டு நிலைமைகளை பல இணையதளங்கள் வழியாகத்தான் கூடுதலாக அறிய முடிகிறது.
Ici nous écoutons toutes les informations par les différents médias et nous avons entendu que le prêtre a perdu sa jambe et puis il est gravement malade. Mais il y a 15 prêtres qui sont là-bas dans la zone de combat et puis il y a 4 religieuses qui veulent rester jusqu'à la fin. Ils ont envoyé à leur supérieur qu'ils veulent rester, ils ne veulent pas sortir du territoire, ils veulent rester accompagnés jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière minute avec la population qui reste là-bas.
Mon père, en août prochain, vous rentrez au Sri Lanka après 6 ans passés en France. Est-ce que vous avez hâte de rentrer au Sri Lanka pour aider ceux qui souffrent?
என்னுடைய பணி எதுவாக இருந்தாலும் தற்பொழுது எங்களுடைய அமரமிருச்சி ஆய்கள் சபையினுடைய
En ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui sont perdus, les parents, les psychologiquement, ils ont traumatisé. Et puis, il dit que la congrégation Oblate, ils ont une vocation pour travailler, pour rendre le service aux pauvres et aux orphelins ou les gens qui ont besoin. Il va être content de travailler avec eux pour rendre le service le maximum possible. C'est ça qu'il attend après son départ d'ici.
இப்பேற்பட்ட பணி எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது. அந்த பணி எதுவாக இருந்தாலும் மக்களுக்காக செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன்.
C'était le père Arul Rasa. Concerts, débats, activités sportives, plusieurs milliers de jeunes de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, se sont retrouvés hier à la Courneuve pour un festival sur le thème de l'accès à la culture. Que représente aujourd'hui la JOC? La jeunesse ouvrière chrétienne, fondée en 1927, critiquée dans le passé pour ses orientations marxistes et un militantisme déconnecté de la vie des paroisses. Eh bien, si le monde ouvrier disparaît peu à peu, l'esprit demeure et les 10 000 membres de la JOC, issus des quartiers populaires, tiennent à ce sigle. On écoute Inès Minin, sa jeune présidente de 28 ans.
Alors, jeunesse ouvrière chrétienne, ça veut dire des jeunes dans les quartiers populaires, dans les quartiers les plus en difficulté. Ça veut dire aussi des jeunes qui sont issus quand même d'une réalité ouvrière, que ce soit dans le Nord ou la Lorraine, où ils sont touchés par les fermetures d'usines, les choses comme ça, et du coup qui se reconnaissent quand même issus de ce milieu ouvrier et de cette histoire, et qui tiennent à ce que la JOC, elle garde cette identité aujourd'hui.
Alors, comment les touchez-vous? Comment ces jeunes viennent-ils de chez vous? Bon, il y en a 10 000 adhérents, dans la mesure où on sait bien que les jeunes aujourd'hui, bon, la messe, c'est pas vraiment dans leur pratique hebdomadaire.
Je crois que la JOC, elle a jamais été chercher ses militants à la messe, enfin, je pense pas. Elle a d'abord été chercher les jeunes là où ils étaient, dans leurs difficultés, et du coup, ça passait d'abord par nos militants qui allaient à la rencontre des jeunes, s'intéressaient à leurs conditions de vie, à ce qui les marquait, et avec ça, monter des projets avec eux. Je crois que c'est comme ça qu'on permet à des jeunes de s'intéresser à la JOC, de se dire qu'il y a peut-être un enjeu à m'engager dans ce mouvement-là et d'y prendre une part. On est d'abord là pour aider des jeunes à dépasser les obstacles et à mieux s'insérer dans la société. Donc les actions qu'on va mener, les projets qu'on va mener dans un quartier vont s'adresser à tous les jeunes du quartier. Et si un jeune a envie de monter un projet avec nous, a envie d'aller plus loin et de trouver des solutions aux questions qui se posent aujourd'hui, la JOC, elle est là pour lui, qu'il soit musulman, athée, chrétien ou d'une autre religion.
Alors, l'esprit chrétien de solidarité, d'entraide, il est là. Est-ce que vous en parlez malgré tout? Ou est-ce que c'est sous-jacent, c'est en filigrane, mais bon, on ne l'évoque pas?
C'est une porte qui est toujours ouverte dans le mouvement, c'est-à-dire que c'est un repère dans tout ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on est dans les quartiers et qu'on va agir pour d'autres jeunes et qu'on va se mettre au service de leur vie, c'est parce qu'on est chrétien. Ça, c'est un peu les intuitions fondatrices du mouvement et ce qui dit ce qu'est la JOC aujourd'hui.
Quel regard portez-vous sur les mesures, justement, gouvernementales à l'égard des jeunes, telles que Nicolas Sarkozy les a présentées?
Ce qui nous choque, c'est engager un jeune aujourd'hui, ça veut dire prendre un risque. C'est le message un peu qui nous est renvoyé, parce qu'aujourd'hui on donne une prime à l'employeur s'il nous prend en CDD, s'il en prend en apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on n'est pas capable d'apporter quelque chose à l'entreprise? Qu'on n'est pas capable aussi de prendre notre place dans la société? Pour nous, c'est pas un message d'avenir, c'est pas se dire aujourd'hui on fait un pari avec les jeunes et on a envie de se dire que c'est avec eux qu'on va construire la société de demain. Pour nous, ça veut dire la précarité demain, parce que dès que ces aides elles auront disparu, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus capable de nous embaucher, plus personne nous prend, plus personne nous fait confiance.
Stéphane Art est un des 21 salariés de la JOC. Il a en charge la région Picardie, Champagne, Ardennes. Entré à la JOC à 12 ans, il en a aujourd'hui 24. Parmi ses tâches, la formation.
Les jeunes qu'on touche, ce sont des jeunes qui sont proches du monde du travail. Donc c'est souvent des jeunes travailleurs saisonniers, des jeunes travailleurs intérimaires, des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, mais également beaucoup de jeunes qui sont en formation professionnelle et qui vont entrer rapidement sur le marché du travail. Des jeunes en lycée professionnel, en apprentissage, et qui vont être très vite confrontés aux difficultés du monde du travail, de la précarité de l'emploi, et ainsi de suite.
Jeunes fragiles souvent, et isolés.
Des jeunes en tout cas qui sont en situation de vulnérabilité. C'est pas eux qui décident finalement de ce que va être leur vie et de ce qui ils vont en faire, c'est pas eux qui choisissent s'ils auront un boulot encore demain parce que leur contrat peut prendre fin, c'est pas eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont aller comme orientation, parce qu'on va facilement leur dire bah toi t'as ça, donc tu vas faire ça. Donc voilà, c'est des jeunes qui sont malheureusement souvent en situation de soumission, qui sont fragiles parce qu'ils savent pas forcément qu'ils peuvent réagir et qu'ils ont les moyens de se faire respecter.
Alors vous, parmi vos actions, effectivement il y a des actions d'information et de formation, et là je pense aux saisonniers par exemple, vous leur donnez quelques bribes du droit du travail.
Tout à fait. La JOC, elle veut permettre aux jeunes de faire respecter leurs droits, leur dignité, et ça passe également par des formations. On est souvent confronté à des jeunes qui sont en travail durant l'été et qui ne sont pas du tout au courant qu'il faut être payé un minimum le SMIC, qu'ils ont droit au moins un jour de congé par semaine, et qui presque trouvent ça normal parce qu'ils se disent c'est pour deux mois, c'est pour un mois, donc c'est acceptable de se faire exploiter, entre guillemets. Et la JOC leur propose de découvrir quels sont leurs droits et de taper du poing sur la table en disant non, moi aussi j'ai des droits et c'est pas normal de travailler 12 heures par jour, sans un seul jour de congé dans le mois, en étant payé 750 euros. La JOC, elle le permet à de nombreux jeunes.
Le thème du festival, c'est la culture. Pourquoi la culture? Parce que vous avez le sentiment que la culture, c'est l'oublier quand la situation est difficile pour les jeunes?
La première chose, c'est qu'on constate que la culture et les loisirs, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de s'épanouir, de se construire et de grandir. Et oui, aujourd'hui, pour des jeunes de milieu ouvrier, de milieu populaire, la culture et les loisirs, quand ça va pas, c'est ce qui passe en premier à la trappe. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement important pour se construire en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que jeune. Quand un jeune va mal, c'est souvent un jeune qui n'a pas accès aux loisirs, à la culture, qui laisse ça de côté, qui n'a pas de moyens pour forcément avoir accès à toutes ces choses-là. Et nous, ce qu'on veut permettre à travers cette campagne, c'est dire que c'est des choses extrêmement importantes et que voir qu'aujourd'hui il y a des jeunes dans la société française qui n'ont pas accès aux loisirs, à la culture, ça montre tous les autres problèmes du doigt, les problèmes de discrimination, d'emploi, les problèmes dans les quartiers populaires, parce que c'est vraiment le marqueur le plus important qui nous permet de voir quand des jeunes ont la possibilité ou pas de grandir, de se construire ou pas.
Nous le rappelions au début de cette émission, l'année 2009 prépare la révision des lois de bioéthique en 2010 avec des états généraux qui permettent aux diverses sensibilités de s'exprimer. Corinne, vous avez rencontré le docteur Xavier Mirabel, président de l'Alliance pour les droits de la vie, qui participe à cette consultation nationale et qui a les mêmes positions que l'Église sur les questions comme l'avortement, l'euthanasie ou encore les cellules souches embryonnaires.
Oui, alors l'Alliance pour les droits de la vie est une association chrétienne présente dans 50 villes. En ce mois de mai, elle lance dans l'Hexagone une grande opération d'information avec des réunions publiques, campagnes d'affichage et distribution de tracts. On écoute le docteur Xavier Mirabel.
Nous sommes favorables à une recherche qui soit respectueuse de l'être humain et qui ait toujours comme objectif la dignité de la personne humaine. Nous sommes favorables à des recherches qui luttent contre la stérilité, c'est-à-dire à faire que cette femme qui peut-être aujourd'hui ne peut pas procréer le puisse demain, que cet homme qui ne peut pas procréer le puisse lui aussi demain.
Et vous avez des demandes à formuler ?
Alors, on a des demandes à formuler, oui. Entre autres, un moratoire sur la congélation des embryons. Nous souhaitons donc le développement de recherches qui aille dans un sens qui respecte profondément l'homme. Nous souhaitons que l'accueil de la personne handicapée soit préparé, soit rendu possible. Et ça, ça passera par certainement un changement de regard. Un changement de regard qui doit impliquer l'ensemble de la société pour que demain, des parents à qui on annoncerait un handicap se sentent capables d'accueillir cet enfant.
Je crois savoir que votre association a été une des premières à s'élever contre la congélation de l'embryon. Qu'est-ce qui vous gêne fondamentalement dans cette pratique ?
Au fond, c'est que l'embryon, nous le regardons comme un être humain. Oui, en gestation, certes, mais si l'embryon n'est pas respectable, alors de quel droit le serais-je moi-même, quoi ? Il n'y a pas de vraie fracture dans son histoire et dans notre histoire personnelle. Pas de fracture biologique par rapport à cet embryon. Donc il est ce que je suis. Et donc on ne congèle pas une personne humaine. On ne l'instrumentalise pas, on ne le détruit pas. Je pense que c'est vraiment un préalable nécessaire pour toute vie en société. Si nous nous autorisons à attenter à la santé, à la vie d'un être humain, quelle que soit sa fragilité, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, c'est l'ensemble des droits de l'homme qui peut voler en éclats.
Et par rapport aux cellules souches ?
Alors les cellules souches, c'est une juste revendication de la part des soignants que de vouloir utiliser les cellules souches pour soigner, et là-dessus il faut s'en réjouir. Bon, après ça, il y a plusieurs façons de se procurer les cellules souches. Il y a chez chacun d'entre nous avons des cellules souches dans notre organisme. Il y a une source tout à fait extraordinaire et passionnante de cellules souches qui est le cordon ombilical, et on voit des banques de cordons qui se créent, etc. Donc là, il y a un travail extrêmement positif qui convient d'encourager. Et puis aussi l'embryon, qui est la source, ouvrons les guillemets, peut-être idéale de cellules souches pour les chercheurs, sans doute pas pour les soignants, puisque les cellules souches embryonnaires n'ont pas encore donné de résultats thérapeutiques et peut-être bien n'en donneront jamais d'ailleurs. Mais nous, là pour le coup, on est en désaccord tout à fait profond. Pourquoi ? Parce que la recherche sur les cellules souches embryonnaires, elle conduit à détruire l'embryon. Donc à désigner celui-là, cet être vivant, là, indiscutablement, au début de sa vie, nous le désignons pour être, ouvrons les guillemets, sacrifié sur l'autel de la recherche, de la science. Et ben ça, nous ne sommes pas prêts de l'accepter.
Et quelle chance avez-vous de faire entendre votre voix dans ces états généraux ?
Ben écoutez, je pense qu'on est entendu très honnêtement et très correctement. J'ai été moi-même auditionné par la commission parlementaire sur la bioéthique. Nous organisons des réunions publiques en France dans une quinzaine de grandes villes qui attirent beaucoup de monde. Et l'écoute est très attentive. Par ailleurs, notre préoccupation autour de la question de l'eugénisme, par exemple, me semble aujourd'hui prête d'être accueillie par la société française qui se rend compte qu'on est face à une sorte de problématique abyssale. On est prêt aujourd'hui à sélectionner l'être humain sur des facteurs de risque de maladie. Nous comprenons tous bien que ça n'est guère raisonnable et qu'on va là dans le mur. Et donc, me semble-t-il, un retournement des esprits n'est pas si loin que ça. Et dans ce sens-là, je pense qu'on est, voilà, on est bien entendu.
C'était le docteur Xavier Mirabel. Après le flash, Religion du Monde poursuit la réflexion bioéthique avec un débat sur les mères porteuses, pour ou contre les mères porteuses, débat mené par Corinne Mangeau.